Bonsoir à tous. La SALCO et les sessions lancées le 4 février 2025, le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Cette démarche portée par les leaders religieux de la SALCO et de l'ECC vise à construire une paix durable et une coexistence harmonieuse. Depuis lors, ils ont multiplié les rencontres diplomatiques, rencontrant des personnalités clés comme le président Félix Tshisekedi, mais aussi les présidents Paul Kagame du Rwanda et João Lourenço de l'Angola, ancien médiateur dans la crise. La délégation de la SALCO et de l'ECC a même été reçue à Paris le mercredi 19 mars par le président français Emmanuel Macron. Parallèlement, le président Félix Tshisekedi a lancé des consultations politiques pour former un gouvernement d'union nationale. L'objectif, trouver des solutions concrètes à la grave crise sécuritaire qui menace l'unité et la stabilité de la RDC. Au niveau régional, je voulais dire, 5 facilitateurs ont été désignés par l'EAC SADC pour trouver une solution à la crise dans l'est de la RDC. Avec toutes ces initiatives en cours, qu'attendre de la démarche de la SALCO et de l'ECC pour le retour de la paix dans l'est de la RDC? C'est la question que nous allons explorer dans cette émission avec Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SALCO en sigle. Mgr Cholet, bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Michel Kialongi, membre de l'Union sacrée de la Nation et coordonnateur de la base pour le développement du Congo, BDC en sigle. Il est aussi membre du regroupement politique 2A. TDC, une des mosaïques, voilà, de l'UDPS, sous la coordination du professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbayi. Jean-Michel Kalogé, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Avec moi dans ce studio, Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir, madame.
À Matadi, au Congo central, vous nous suivez sur la sonde 2.0. Et si vous êtes en dehors de la RDC, rejoignez-nous sur www.radiokepi.net, sur DSTV, canal 867. Vous pouvez également nous suivre en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Kepi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiokapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, la SALCO et l'ECC ont lancé le 4 février 2025 le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Cette démarche portée par les leaders religieux de la SALCO et de l'ECC vise à construire une paix durable et une coexistence harmonieuse. L'ECC et la SALCO ont rencontré le président de la République, Félix Tshisekedi, bien avant de consulter la classe politique et sociale, les leaders plutôt régionaux, les groupes rebelles ainsi que certains acteurs clés au niveau international. Bertin Kassama pour le détail.
Depuis plusieurs semaines, les représentants de ces deux confessions religieuses multiplient les rencontres diplomatiques. Après avoir dialogué avec les plus hautes autorités de la région, notamment les présidents Tshisekedi, Kagame et Lourenço, la délégation de la SALCO et de l'ECC a récemment franchi les frontières. C'est à Paris, en France, que s'est déroulée une étape cruciale de cette initiative. Mercredi dernier, le 19 mars, les émissaires de la SALCO et de l'ECC ont été reçus au palais de l'Élysée par le président de la République française Emmanuel Macron. Un entretien qui, selon les observateurs, marque un soutien des poids de la communauté internationale à cette démarche pour la paix en RDC. La délégation a également été reçue à Bruxelles, en Belgique, par le vice-premier ministre Maxime Prévost. L'objectif, partager les détails du pacte social pour la paix et le vivre ensemble et solliciter un appui plus large. Au-delà des négociations et des discussions politiques, la SALCO et l'ECC travaillent activement à la restauration de la cohésion sociale, un pilier essentiel pour une paix durable. Leurs actions sur le terrain incluent des programmes de dialogue intercommunautaire, de justice transitionnelle pour penser les blessures du passé et d'éducation à la paix pour construire un avenir sans violence.
Merci Bertin Kassiama, Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SALCO en sigle. Comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est depuis le 4 février 2025 que la SALCO OLSSC ont lancé le pacte social pour la paix, le bien vivre ensemble en RDC et dans la région de Grand Lac. L'objectif vise à construire une paix durable et en RDC et dans la région de Grand Lac. Vous avez rencontré plusieurs personnalités tant au niveau national qu'international. Où en est-on avec votre démarche aujourd'hui?
Eh bien, merci de continuer notre sensibilisation. Comprenez bien la motivation.
On vous suit difficilement.
Voilà.
Votre ligne. Donc, Monseigneur Chollet, on a un souci avec votre ligne téléphonique. Ça crache, on vous capte difficilement. Est-ce que vous pouvez bouger un peu pour améliorer la qualité du réseau?
Ça, c'est ma marche bien.
Allô?
Oh.
Oh là là. On ne vous capte pas bien. On vous suit difficilement. Alors, la réalisation va essayer de vous rappeler, Monseigneur Donatien Chollet, pour voir si la ligne va s'améliorer. En attendant, on va donner la parole à Jean-Michel Kalongi, qui est membre de l'Union Sacrée de la Nation et coordonnateur de la base pour le développement du Congo, BDC en sigle, mais aussi membre du regroupement politique 2A-TDC, une des mosaïques de l'UDPS, sous la coordination du professeur Jean-Isaac Jean-Claude Tshilumbayi. Alors, Jean-Michel Kalongi, comme je l'ai dit, la CENCO et l'ECC ont lancé depuis le 4 février 2025 le pacte social pour le bien vivre ensemble en RDC et dans la région de Grand Lac. Ces religions ont rencontré plusieurs personnalités, tant au niveau national qu'international. La semaine dernière, ils étaient à Paris et Bruxelles, où ils ont rencontré le président français, le vice-premier ministre belge. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche des évêques qui se poursuit au niveau à l'international? Jean-Michel Kalongi?
Oui, allô, Madame Thierry.
Est-ce que vous m'avez suivi?
Oui, je vous ai très bien suivi. J'aurais bien voulu intervenir après notre excellence, Monseigneur de la
Chine. La réalisation. La réalisation me signale que Monseigneur Chollet est en ligne. Monseigneur Chollet, vous m'entendez?
Très bien, merci.
Alors, j'ai posé la question, est-ce qu'on en est aujourd'hui avec votre démarche après la rencontre la semaine dernière avec le président français Emmanuel Macron et le vice-premier ministre belge?
Eh bien, nous continuons pour le moment. Le président de la CENCO et moi-même, nous sommes à Rome. Une étape très importante, vous savez que c'est une initiative qui engage la conférence épiscopale nationale du Congo. Donc c'est une initiative de l'Église catholique en RDC. Et à ce titre-là, nous devons travailler en pleine communion avec l'Église universelle. Donc aujourd'hui, nous avons rencontré le cardinal Parolin, qui est le numéro 2 du Vatican. Vous savez que le pape est malade. C'était l'occasion pour nous de lui expliquer tout ce qui a été fait et nous sommes très satisfaits de ses encouragements et de son engagement à nous accompagner dans la mesure du possible. Donc nous continuons cette phase de sensibilisation. Vous savez que notre initiative a deux volets, le volet national et le volet sous-régional, donc international. Et déjà au volet national, ceux de l'opposition et certains de la société civile ont posé comme préalable des garanties. Quelles sont les garanties que le consensus qui sera trouvé sera respecté par le pouvoir en place? Et un des aspects de ces garanties, c'est d'avoir la légitimité, l'appui, le soutien de la communauté internationale. C'est ça qui a justifié que nous puissions, en même temps que nous consultons à l'interne, que nous puissions consulter à l'externe. On est presque vers la fin et on attend aussi le retour du chef de l'État qui avait promis de nous recevoir. Donc, nous sommes disponibles dès qu'il exprimera le vœu de nous recevoir, nous donnera des précisions et on verra comment évoluer avec lui.
Alors, vous êtes presque à la fin de votre sensibilisation. Est-ce que vous avez encore des personnalités à rencontrer?
Eh bien, on est en train de penser, voir du côté des États-Unis si nous pouvons renforcer, mais dans les heures qui suivent, vous serez informés.
Alors, vous attendez le retour du chef de l'État pour vous recevoir. Ce sera pour quel but? Pour que vous puissiez lui faire rapport de toutes les personnes que vous avez rencontrées, lui faire rapport de votre mission?
Oui, parce que c'est que nous sommes convenus, il nous avait dit « Ok, donc vous pouvez aller. Entre-temps, moi, je prends connaissance de votre feuille de route. Le moment venu, peut-être après 2 semaines, je vais vous rappeler pour qu'on fasse l'état des lieux de votre initiative. C'est ce que nous attendons. »
Alors, vous êtes dans la sensibilisation pour le pacte social, pour la paix, le bien vivre ensemble en RDC, dans la région des Grands Lacs. C'est une des solutions que vous recherchez pour la paix dans l'est de la RDC. Mais entre-temps, au niveau national, le chef de l'État a initié ou a lancé les consultations politiques l'objectif c'est de former un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui va essayer de travailler dur pour mettre fin à cette crise grave dans l'est de la RDC. Est-ce que cela ne constitue pas un obstacle pour vous?
Bon, je ne pense pas, c'est à lui de le dire, parce que pour nous d'abord c'est une offre que les deux églises proposent à la nation comme voie que nous estimons inévitable pour arriver à une paix durable. Les consultations actuelles, bon, à mon point de vue, ça fait partie des réflexes politiques. En pareille situation, ce n'est pas une première. Je crois que l'histoire devrait nous renseigner aussi. On a eu beaucoup de gouvernements d'union nationale en temps de crise. Il y avait le gouvernement Likulia. Il y avait aussi, vous vous souvenez du gouvernement Tshibala, du gouvernement Badibanga. On peut interroger l'histoire pour savoir ce que ça a apporté en termes de solution par rapport à la crise. L'avantage de l'initiative que nous portons, c'est qu'à la différence des autres dialogues qui étaient régis par l'agenda politique, où le partage du pouvoir était au centre, cette initiative, c'est le forum de consensus national que nous proposons, qui sera précédé par les ateliers des scientifiques de grandes pointures du pays pour analyser les causes profondes de la crise. Ça, je crois que un gouvernement d'union nationale ne sera pas la réponse indiquée. C'est peut-être un aspect de réponse. Encore qu'il faudra que ce soit vraiment que ça réunisse tout le monde, que ce ne soit pas un gouvernement de débauchés. Donc nous estimons que même si ce gouvernement était mis en place, il ne répondra pas à la nature de la crise aujourd'hui de façon efficace.
Avez-vous été associé ou invité à ces consultations politiques? Parce que à entendre le conseiller spécial du chef de l'État en matière en charge de la sécurité, il a dit que tout le monde sera invité, sera consulté, y compris les confessions religieuses. Est-ce que la SALCO et les CC ont été associés ou invités?
En tout cas, du côté de la SALCO, à ce que je sache, nous n'avons pas encore reçu l'invitation.
On vous garde encore dans cette émission, Monseigneur Donatien Cholet, Jean-Michel Kalonji. Je rappelle que vous êtes membre de l'Union sacrée de la Nation et coordonnateur de la base pour le développement du Congo, BDC, en sigle. La SALCO et l'ECC continuent de sensibiliser le pacte social pour la paix et les biens vivre ensemble en RDC dans la région des Grands Lacs. À l'heure actuelle, actuellement, ils sont à Rome, comme venait de le dire Monseigneur Donatien Cholet. Alors, votre lecture par rapport à cette sensibilisation qui se poursuit.
Oui, je voudrais d'abord remercier notre Excellence Monseigneur Donatien Cholet pour sa disponibilité pour discuter du Congo avec nous.
Est-ce que vous pouvez, désactiver le mot main libre?
Ok.
On vous écoute, Monsieur Kalonji.
Je disais, je remercie notre Excellence Monseigneur Donatien Cholet pour sa disponibilité. Et comme il vient de le dire, ils ont été reçus par le chef de l'État qui a reçu leur feuille de route et qui a promis de les recevoir plus tard. Donc, au vu de cela, nous avons tous vu le périple qu'ils ont organisé. Ils ont discuté avec différents protagonistes de la crise sécuritaire au pays. Et à présent, ils sont à Rome. Ils promettent que peut-être ils entreront en contact avec les États-Unis. Donc nous attendons d'un côté ce rapport. Et pour voir quelle est la mise en place, parce que ce que ils proposent, c'est un forum élargi qui va parler des causes scientifiques et des causes profondes sur la gestion du pays pour résoudre cette crise. Cependant, nous sommes face à une gestion quotidienne de l'État. Le président de la République qui voit que cette crise sécuritaire, cette guerre nous imposée par des pays voisins, est en train de tuer et d'arracher la vie à nos frères et sœurs de la partie est du pays. Le président doit trouver une solution. Voilà pourquoi il a mis en place des consultations qui sont gérées par son conseiller spécial en matière de sécurité pour écouter les uns et les autres, que ce soit du côté institutionnel, que ce soit la société civile, que ce soit tous les autres opérateurs qui ont un regard sur la gestion du pays pour trouver une solution et aussi apporter un gouvernement dans un bref délai pour gérer et apporter des solutions au quotidien de la population. Aujourd'hui, les rapports que nous avons, il y a des tueries sélectives dans la partie est du pays. Je ne peux confirmer ni affirmer, mais nous avons appris qu'on a violé des femmes qui venaient d'accoucher dans des centres de santé. Donc vous voyez que face à toutes ces situations, le président de la République ne peut pas rester les mains fermées. Voilà pourquoi il va là où on parle de la paix. Il a accepté bien que mal d'aller.
La parle aussi de la paix. Pourquoi ne pas soutenir cette initiative de la SALCO et l'ECC, les propositions faites par les leaders religieux?
L'initiative de la SEMCO n'est pas refusée ni rejetée par le chef de l'État. Nous attendons que la SEMCO puisse terminer son périple et fasse rapport au chef de l'État et donne le chronogramme et la projection des différentes étapes qui vont suivre. Mais qu'à cela ne tienne, il faudrait gérer au quotidien.
En lançant ces consultations politiques, est-ce que ce n'est pas une façon de dire à la SENCO et l'ECC que vous pouvez garder pour vous votre démarche? Nous, on a une autre démarche un peu plus rapide. On va mettre en place un gouvernement d'union nationale qui va trouver des solutions à la crise que traverse la RDC aujourd'hui.
La crise que traverse la RDC aujourd'hui est une crise sécuritaire. Nous devons répondre par une gestion optimale de la res publica. Il faudrait nous armer, il faudrait répondre sécuritairement à cette question. Il nous faut un gouvernement qui doit faire face à cette situation. Nous n'allons pas attendre le temps. Comme vous avez vous-même annoncé, c'est depuis le 4 février. Jusqu'à présent, la SEMCO est encore dans son périple en train de discuter avec les différents protagonistes qui sont dans cette guerre. Le temps de mettre cela en place, nous allons aller à quelle période? N'oubliez pas que les discussions du dialogue de Sun City ont pris plus d'une année. Donc, et entre-temps, quelles sont les solutions que nous apportons à la population de la partie est du pays?
La mise en place d'un gouvernement.
Il faudrait un gouvernement pour gérer. Et entre-temps, nous allons suivre et voir. Et c'est le président de la République qui va donner les tons quand il va avoir le rapport de la SEMCO et donner des orientations. Parce qu'un forum scientifique peut prendre beaucoup plus de temps pour régler la question dans ses prémices, dans sa racine. Alors pour cela, nous devons continuer à gérer les pays de façon efficace.
Mais
voilà pourquoi il y a ces consultations.
On a un gouvernement en place, Jean-Michel Kalogi. A-t-on besoin de mettre en place un nouveau gouvernement, un gouvernement d'union nationale, pour résoudre la crise dans l'est de la RDC? L'actuel ne peut pas arriver à faire...
Moi, je pense que on aurait dû avoir un remaniement stratégique le jour où Goma est tombé. Dans les 48 heures, nous devions avoir déjà eu un remaniement stratégique. Parce que quand nous avons des parties de notre territoire aujourd'hui sous la gestion de l'ennemi, c'est que nous avons eu des failles à un certain moment. Nous ne devons pas continuer à attendre les discussions pour avoir prendre des décisions précises. Nous allons attendre quand le territoire sera pris par l'ennemi. Il n'y aura plus le temps de ces forums. Nous serons déjà sous une balkanisation, sous la domination d'une armée extérieure. C'est ça qu'il faudrait éviter entre-temps, parce que entre-temps, le M23 qui a reçu la SEMCO continue à prendre du territoire. Le président Kagame qui a reçu la SEMCO continue à envoyer ses militaires au Rwanda, sur le territoire congolais. Qu'est-ce que l'on fait entre-temps? Il faudrait prendre des décisions. Voilà pourquoi il faudrait des consultations, et ces consultations sont menées par le conseiller en matière sécuritaire du chef de l'État. Parce que c'est une question sécuritaire à laquelle il faudrait apporter une solution idoine et sécuriser les fils et filles du Congo.
Christian Moleka, vous êtes analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Ça fait plus de deux mois que les évêques de la SEMCO et les pasteurs des DCC sont en train de sensibiliser sur le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région de Grand Lac. Quelle pourrait être la portée de cette initiative de la SEMCO et de l'ECC?
Merci madame. Dans la recherche des solutions à la crise congolaise, il y a plusieurs possibilités ou plusieurs opportunités. Il y a des solutions internes qui sont liées à la gouvernance interne, qui sont liées à nos faiblesses structurelles. Il y a des questions régionales qui sont liées aux tensions avec les pays voisins. Et à chaque niveau de problème, il y a également de niveaux de solutions. Luanda avait pour mission de favoriser une détente entre Kinshasa et le Rwanda. Nairobi avait un regard essentiellement sécuritaire en mettant ensemble tous les groupes armés et l'État congolais en face. Il restait une dimension intérieure qui était celle de la cohésion interne autour d'un processus politique. Le fait que le président n'ait pas pris l'initiative de manière, en premier, eh bien, ce vide-là a favorisé le développement de l'initiative de l'ESSENCO, qui propose une démarche interne qui permet de mettre autour d'une table les politiques afin de répondre aux faiblesses structurelles, qui permettent des faiblesses de gouvernance, des faiblesses socioculturelles. On a toujours des problèmes sécuritaires qui sont liés aux conflits communautaires, aux conflits fonciers. Et pour ça, il faut des réponses structurelles en interne. Et donc, c'est à cela que répond le mécanisme. La grande difficulté aujourd'hui, c'est que dès le départ, le projet a été regardé avec méfiance par le pouvoir. Et manifestement, les démarches qui ont suivi, les contacts dans les pays voisins n'ont pas aidé à renforcer la confiance entre le président ou la famille présidentielle et l'Église aujourd'hui. Et donc la crise que nous avons, c'est davantage une crise de confiance qu'une crise sur la finalité. Si tout le monde semble être d'accord sur le dialogue, si tout le monde semble être d'accord sur la nécessité d'avoir un processus, ce qui bloque aujourd'hui, c'est la méfiance du corps présidentiel vis-à-vis de l'initiative. On l'a vu dans le passé, ils ont tenté de solliciter auprès de la SENCO l'élargissement du comité avec les églises des réveils pour avoir un regard plus large, ce qui n'a pas été apporté comme élément de réponse. Aujourd'hui, ce manque de confiance-là bloque ce processus-là. Donc c'est aux différentes parties de travailler, soit rétablir la confiance, soit à la SENCO de comprendre quel élément de confiance manque et qu'il faut développer notre méthode pour rétablir les conditions d'un dialogue avec la partie pouvoir.
Alors aujourd'hui, le président de la République a lancé les consultations politique pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement sera chargé, aura pour mission de trouver des solutions à la guerre ou à la crise que traverse la RDC. Aujourd'hui, on a la mission, l'initiative ou la démarche des nécessités de la SENCO. On a la démarche du président ou l'initiative du président de la République. Pensez-vous que la SENCO ou l'ECC pourrait rencontrer des obstacles pour la mise en œuvre ou la mise en exécution de son projet?
L'obstacle aujourd'hui, c'est la composante gouvernement, si on peut l'appeler comme ça. Du côté de l'opposition et de la société civile, il ne semble pas avoir à ce jour d'obstacle en termes d'ouverture au dialogue. L'obstacle, ça demeure la composante gouvernementale, qui fait preuve de beaucoup de méfiance et de frilosité. Et donc, la démarche des consultations, quand vous suivez mon frère Michel Kalonji, on a le sentiment que c'est à la fois une forme de consultation qui n'est pas uniquement gouvernementale, mais en même temps, c'est une démarche d'élargissement de l'équipe gouvernementale à travers l'adhésion d'autres forces, votre force politique. Donc, il y a cette ambiguïté déjà dans ce que l'on met dans consultation. Ensuite, ça peut être perçu comme une forme de raccourci ou de court-circuitage de la démarche des évêques. Au Congo, on le sait, un compromis politique aboutit toujours à un gouvernement d'union nationale. Et donc, avoir aujourd'hui sur la table un projet de gouvernement, c'est sauter en quelque sorte l'étape du compromis et soumettre la possibilité pour certains de rejoindre la dynamique gouvernementale. Ce qui aurait pu attirer certains acteurs de l'opposition, mais manifestement, ils semblent aujourd'hui refuser cette initiative-là. Donc c'est là où se trouve le blocage de la confiance pour la CENI, plutôt la SENCO, et le blocage également de la confiance pour le gouvernement qui n'arrive pas à attirer vers lui l'opposition politique.
Alors, il y a certains auditeurs qui parlent de concurrence entre la démarche de la SENCO et l'ECC et celle du président de la République. Est-ce qu'on peut parler de concurrence?
Concurrence, oui, ça peut se dire comme ça, mais je crois que c'est davantage, peut-être le Bessolé l'a dit en passant, c'est que lorsque vous mettez en place un dialogue, il y a des compromis à trouver, et ces compromis amènent à des engagements. Et le fait que la SENCO le rappelle encore, la Monseigneur Bessolé l'a rappelé encore aussi, que les engagements qui peuvent découler d'un tel compromis seront pris en charge à l'international, pour un pouvoir qui est encore à 3 ans d'une présidentielle de 2028, c'est mettre sur la table beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup de velléités, on l'a vu en début d'année, de révision constitutionnelle, de changement de constitution, des questions sur l'avenir du régime politique qui ne sont pas encore réglées. Prendre des compromis aujourd'hui pourrait être pour eux remettre en question toute la stratégie qui s'était construite dès le début du mandat. Et donc il y a de la réticence dans la composante gouvernementale à aller dans un forum où ils seront contraints de prendre des engagements qui seront portés à l'international et qui lieraient pratiquement la conduite de la République jusqu'en 2028. Est-ce que ce n'est pas parce que le timing est trop tôt et que beaucoup tenteraient de voir l'avancée sur terrain des missions diplomatiques pour déterminer ce que sera 2028? Il y a cette perspective qui reste comme une hantise dans la tête de beaucoup de politiciens.
Vous êtes très très nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Capi. Biaest et Isa Chirac pensent que il y a Kalemie, voilà, dans la province du Tanganyika. Nous soutenons la lutte que mène la SENCO SCC, le seul moyen qui peut nous amener à la paix. David Wedi, dans la province du Sankuru. Quelle solution magique, autre que la SENCO et les CC vont apporter, que les accords de Nairobi et celui de Luanda n'ont pas apporté? C'est une question qui pose aux invités. Roger Ning, je me demande si nous prenons tout au sérieux dans ce pays. La majorité au pouvoir doit examiner les consultations si elles sont pertinentes. Le contraire, opter pour le dialogue de la SENCO et CC qui paraît inclusif et pertinent. Roger Mouning depuis Kolwezi. Inclusivité, on pense que l'initiative de la SENCO est inclusive et les consultations sont exclusives. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, à ce jour, les consultations semblent encore se limiter à la famille présidentielle. Donc, on n'a pas encore vu des grandes ouvertures dans la consultation. Peut-être que dans les jours à venir, le spécial nous montrera un autre visage. Mais quand on voit comment ça a commencé, c'est encore une histoire de famille. Alors que la démarche de la SENCO, au-delà de l'inclusivité interne, a le mérite de vouloir rassembler également au niveau régional et international. Et c'est peut-être ça qui a manqué au niveau de la famille présidentielle, qui n'a pas su anticiper la nécessité de prendre l'initiative. En politique, lorsque vous ne prenez pas les initiatives, vous les subissez. Et donc, on a une famille présidentielle qui subit les initiatives et qui tente de reprendre la main.
On va ouvrir notre standard pour prendre les réactions ou les appels de ces auditeurs qui sont très très nombreux à nous suivre à travers toute la République et même en dehors de nos frontières. Direction, quel auditeur est prêt? Kinshasa, voilà, on me dit que c'est l'auditeur de Kinshasa, on va l'écouter.
Alphonse Tefou, depuis la ville province de Kinshasa. Je pense que la démarche de la SENCO SCC n'a pas de chance d'aboutir à une paix durable, puisque le pacte social et le vivre ensemble par excellence est la Constitution. Leur pacte social ne doit pas remplacer la Constitution. Ça va accoucher un mort-né, puisque la SENCO SCC n'inspire pas confiance à ceux qui gèrent aujourd'hui, même dans l'opinion publique, qui considèrent ces deux confessions religieuses comme déjà des partis politiques, comme agents de l'étranger, comme proches de la rébellion et de l'opposition, voire leurs déclarations dans le passé. Elles ont déjà pris parti à la cause et leur démarche est sélective. Pourquoi ils n'ont pas rencontré le président burundais, le président sud-africain et le président tanzanien, puisqu'ils sont dans les conflits indirectement en voulant aider la RDC? Puisqu'ils ont une rhétorique contraire au gouvernement, à l'international, en refusant des sanctions contre le Rwanda et le M23. Ils n'ont jamais condamné le Rwanda ni le M23 pour tout ce qu'ils font depuis Bunagana jusqu'à Goma, Bukavu. Cependant, le gouvernement congolais doit avoir une harmonisation de toutes les approches pour avoir une coordination commune en vue de trouver solution à la crise sécuritaire à l'est de la République. Merci.
Monseigneur Nonassien Cholet, cet auditeur de Kinshasa vous reproche de beaucoup de choses. Hein. Comment vous lui répondez? Pourquoi vous n'avez pas rencontré le président burundais, sud-africain et tanzanien?
Oui, je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas d'abord lu le projet, parce qu'il nous prête l'intention de s'engager à quelque chose qui ne respecte pas la Constitution. Ça, c'est faux. D'abord, nous n'avons pas un projet de pacte ou d'accord préécrit d'avance. Nous voulons simplement mettre les Congolais ensemble. Nous ne savons pas ce qui sortirait de là. Et la majorité sera là. Je crois que l'ECC et la CENCO sont les champions de la défense de la Constitution. Le président burundais, le rendez-vous était demandé. Il y a eu conflit de calendrier. Il nous a proposé une date. Quand on a demandé, la réponse est venue plus tard. Il a proposé une date pendant que nous étions déjà de l'autre côté. Le président sud-africain, nous avions demandé. Jusque-là, nous n'avions pas de suite. Le président tanzanien, nous sommes allés même à Dar es Salaam, où on s'est rencontré avec les évêques rwandais, burundais. On avait demandé rendez-vous. Il n'était malheureusement pas là. C'est le vice-président qui devrait nous recevoir, mais il y avait aussi un projet de calendrier. Donc, nous n'avons pas évité le président qu'il a cité là-bas. D'ailleurs, pour celui de Burundi, on attend une nouvelle date qui nous mettrait d'accord. Et on pourrait commencer. Donc, c'est là.
Je crois qu'on a perdu Monseigneur Donatien Affolé. On va essayer de le rappeler qu'on le remette en ligne. On va prendre cet autre auditeur qui nous appelle de Bukavu, dans la province du Sud Kivu.
Jean Jado Egelima, je vous appelle à partir de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. De toutes les initiatives menant à la recherche de la paix dans notre pays, la démarche de la CENCO et SEC dans le cadre du pacte social pour la paix et le bien-être serait plus efficace et porteuse d'une solution rapide, car elle met en exergue tous les acteurs au conflit, à l'interne tout comme à l'externe. Néanmoins, la faiblesse de cette démarche, c'est son illégitimité face aux acteurs en conflit. Car, malgré les différents contacts, on annonce les cessez-le-feu unilatéral et qui n'est jamais respecté d'une part, et d'autre part, le plan de sortie des crises serait d'appeler tout le monde pour qu'il participe à la gestion du pays en essayant au moins d'ignorer l'existence de la démarche CENCO-SEC.
Jean-Michel Kalogi, très brièvement, comment vous réagissez au propos de Jado Iguilima qui nous a appelé depuis la ville de Bukavu au sud Kivu, qui pense que de toutes les initiatives menant à la recherche de la paix dans votre pays, la démarche de la CENCO et de l'SEC dans le cadre du pacte social serait plus efficace et porteuse d'une solution rapide.
C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la décision dans le cadre de ce pacte revient au président de la République qui a été le premier à recevoir la CENCO. Et comme je l'ai souligné tantôt, le temps que cela prend pour mettre en place, nous devons continuer une gestion du pays face à une guerre d'agression qui continue à faire couler le sang du peuple congolais. Voilà pourquoi le chef de l'État a mis en place ces consultations pour avoir un gouvernement efficace et avec tous les protagonistes ou tout Congolais qui peut apporter son apport de façon objective dans la gestion du pays pour résoudre cette question des guerres. Mais s'il faudrait discuter sur les questions profondes et amener des solutions à long terme pour avoir une paix durable et ne plus retomber dans ces situations de guerre, le président de la République est le premier partant parce qu'il parle auprès de tout celui qui veut parler de la paix pour le Congo. Il a été le premier à appeler le président Kagame, son frère, pour pouvoir amener la paix au Congo. Donc le président Tshisekedi ne rejette pas le pacte, ne rejette pas de négocier et de serrer la main de tout Congolais qui voudrait parler de la paix.
Alors, on me signale que Monseigneur Donatien Cholet est revenu. Vous êtes là, Monseigneur ?
Oui, je suis là.
Alors, on vous écoute hein, très, très rapidement. Vous disiez que vous n'avez pas pu rencontrer le président burundais à cause de son agenda. Du côté de l'Afrique du Sud, vous attendez la réponse. Vous attendez toujours la réponse du président Thabo Mbeki. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa.
Oui, exactement. Donc, on avait manifesté l'intérêt de le rencontrer. Celui de Burundi, je pense que notre date sera... Le plus important, c'est que nous, on était ouvert à tout... On est ouvert à tout le monde, c'est pas qu'on a évité quelqu'un.
Alors, vous êtes ouvert à tout le monde. La SADC ou les AC SADC viennent de désigner 5 facilitateurs pour essayer de trouver une solution à la crise de la RDC. Êtes-vous prêt à collaborer, à travailler avec ces facilitateurs?
Bien sûr. D'ailleurs, quand nous étions reçus par le président Ruto, le président de Kenya, il nous avait annoncé cette équipe-là qui a fini par être désignée. Et comme tous les autres présidents, lui disait que dans ce qu'il n'avait pas pris en compte, c'est la dimension interne qui est pourtant fondamentale. Alors lui verrait comment nous faciliter les contacts et la collaboration avec cette équipe, parce que ce que nous faisons est complémentaire à ce qui se fait au niveau de la sous-région.
Alors, entre-temps, il y a le président Lourenço qui s'est désengagé de la médiation. Comment vous avez réagi à cette annonce?
Un peu désolé, mais il reste quand même président de l'Union africaine. Ce qui se fera au niveau de Nairobi, la jonction, le jumelage de ces deux processus sera quelque peu sur son regard comme président de l'Union africaine. Donc son œil, sa sagesse pourra encore jouer à ce niveau-là. Mais il a l'avantage d'avoir convaincu le président de la République à percevoir la nécessité d'un dialogue direct avec le M23. C'est ce que nous avons toujours souhaité. C'est pourquoi nous avons été critiqués, considérés comme des traîtres. Je crois que quand on a vu le chef de l'État à Doha, à Qatar, on a compris que ce n'est pas la traîtrise, mais c'est la recherche d'une solution pacifique.
On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga.
C'est Émile Mulamboué depuis Lubumbashi. Toutes les personnes de bonne volonté soutiennent la démarche de nos pères spirituels de la CENCO et de l'SEC dans leur démarche. Cependant, cet effort risque d'être bloqué par l'attitude du régime de Kinshasa qui veut une chose et son contraire à la fois. C'est-à-dire, d'un côté, il dit toujours non à la négociation comme ligne rouge à ne jamais franchir. En même temps, il dit oui à la négociation quand les rebelles conquièrent des territoires et mettent le régime de M. Tshilombo en position de faiblesse. De l'autre côté, il prône la cohésion nationale en voulant mettre en place un gouvernement d'union nationale. En même temps, il prône l'intimidation, l'interpellation des opposants et même de ceux-là qui s'efforcent à trouver des voies de sortie de cette crise. Alors, moi, je ne comprends pas. C'est ce qui risque de bloquer cette démarche de nos pères spirituels. Merci, Radio Kapi.
Alors, cet auditoire vous rejoint un peu, hein, Christian Moleka, dans votre analyse de tout à l'heure, la méfiance. Comment recréer cette confiance entre le pouvoir et l'Église catholique et protestante?
C'est un processus, hein. La confiance s'est construite, ça prend du temps peut-être. Je crois qu'il y a, je partage en partie son constat, c'est que ce manque de confiance aujourd'hui bloque la possibilité d'avoir un cadre d'échange au niveau interne, autant qu'avancent les initiatives au niveau régional. Et qu'il faille travailler à si possible, à construire des ponts plutôt qu'à séparer. La grande complexité, c'est que vous avez une famille présidentielle qui est davantage dans la défensive. cette stratégie défensive fait qu'on est davantage dans le rejet que dans la contre-proposition. Il aurait été mieux qu'il y ait des contre-propositions et ça aiderait les choses à avancer. Tant qu'on reste dans une approche défensive et de rejet, et donc ce sera un peu le blocage. C'est également aux évêques de savoir jouer face à ces stratégies défensives en donnant également des signes, je dirais, de souplesse. L'ouverture à d'autres composantes religieuses aurait été également un signal d'assouplissement vis-à-vis une demande venant du camp présidentiel, même si on sait qu'il y a des tensions qui ont fait exploser la CIMAI et qui fait qu'aujourd'hui on a d'un côté le bloc ECC-SENCO et de l'autre les autres confessions religieuses depuis l'histoire de Denis Kalima. Et donc recréer également la confiance de ce point de vue-là, ça reste également un chantier. Et donc qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui ? Eh bien, on a une facilitation qui se met en place qui peut à la fois nous aider à construire, je dirais, de ponts entre la démarche interne et la démarche régionale. Et dans ce volet-là, la démarche interne prendra également, je dirais, un poids international qui amènerait Kinshasa à négocier. C'est aussi ça aussi un des canaux entre les finalités recherchées et les acteurs eux-mêmes. Et c'est la SENCO de, à un moment donné, de réfléchir sur la nécessité de laisser l'idée se valider. Et probablement sont les acteurs eux-mêmes. On a vu à un moment donné des mouvements comme San Egidio jouer la médiation pour recréer la confiance vis-à-vis de l'église locale. Lorsque l'église locale va poser problème vis-à-vis du pouvoir, eh bien, on peut recourir à des structures comme San Egidio pour recréer des éléments de lien sans forcément que l'église locale soit au premier plan.
Monseigneur, nous sommes à la fin de notre émission. Quelles sont les prochaines actions concrètes que la SENCO et l'ECC envisagent dans le cadre du pacte social?
Bon, d'abord, je voudrais féliciter. Je suis d'accord avec M. Moleka. Nous proposons la facilitation. Nous ne voulons pas nous imposer comme médiateur. Pour être médiateur, il faut avoir l'adhésion des parties prenantes. Et nous sommes justement en train de, aujourd'hui, hier nous étions avec Saint-Egidio et on a approché d'autres associations. Et nous sommes dans cette dynamique-là de rassurer le chef de l'État qu'il ne s'agit pas d'une dynamique pour le renverser comme certains l'ont prétendu. Bon, je parie qu'à la prochaine rencontre avec le chef de l'État, ce sera la réponse à votre demande, la prochaine étape. Pour nos capitales, c'est cette rencontre-là qui peut recréer la confiance. Et ensuite, nous allons peut-être concomitamment lancer l'appel à l'intelligentsia, donc aux grands scientifiques qui sont intéressés dans les problématiques, on donnera le profit. Là encore, ça sera ouvert, ça ne sera pas seulement des catholiques, il y aura aussi les experts de toutes les religions, de tous bords. Et c'est à ce niveau déjà qu'on va apprécier l'ouverture, que ce n'est pas quelque chose qui ferait peur. Quoi.
Merci, Monseigneur Donatien Cholet, Jean-Michel Kalogi. Quel pourrait être l'engagement du gouvernement pour soutenir les initiatives des pays de développement dans l'Est de la RDC?
Pour l'instant, le gouvernement, comme nous avons dit, nous sommes ouverts à tout le gouvernement, le chef de l'État ou sa famille politique est ouvert à toute solution qui peut amener la paix. Nous attendons de voir les cinq désignés par l'EAC et la SADC, comment ils vont orienter les choses. Je voudrais signaler aussi que le président de la République était cet après-midi en Angola pour parler avec le président angolais qui vient d'hésiter ou retirer des négociations, mais reste le président de l'Union africaine. Donc, dans ce cadre, il a été jugé nécessaire de continuer à discuter avec lui parce que son apport dans la sous-région et en Afrique reste impactante. Nous allons voir comment ça va évoluer. Moi, je le dis toujours, la SENCO a joué un grand rôle dans ce pays, dans toutes les négociations. que ce soit depuis la conférence nationale souveraine, vous devez savoir que c'est Monseigneur Laurent Moutsengo qui nous a conduit à l'élection de Feu Etienne Tshisekedi comme Premier ministre. La CEMCO nous a amené le dialogue de Saint-Sylvestre en 2016 qui a empêcher que le pays puisse éclater. Donc, nous soutenons la CEMCO qui reste un acteur majeur et que nous ne voulons pas entrer dans les débats que d'autres églises sont exclues ou pas. Ces églises font partie de la société civile. Donc, la CEMCO et le président de la République pourront définir les cadres pour les prochaines discussions. Mais qu'à cela ne tienne, nous pensons que le pays doit continuer à être gouverné et faire face à la guerre, renforcer notre système de défense, renforcer la gestion du territorial. Aujourd'hui, avec cet impact, vous pouvez bien savoir qu'aujourd'hui, les fonctionnaires de la partie est du pays ne sont pas payés parce que les banques dans cette partie ne fonctionnent pas. Il faudrait trouver des solutions pour que ces personnes se retrouvent dans des situations idoines. Il y a les problèmes des enfants qui doivent faire des examens d'État, quelle est la solution au système éducatif. Donc toutes ces questions doivent être réglées. Voilà pourquoi il nous faudrait un gouvernement qui doit faire face à cela. Mais nous restons ouverts au dialogue.
Théologie. Fidèle Coupola, qui nous suit sur Facebook, le régime est en train de rêver. La meilleure solution est celle de la CEMCO-SCC. Voilà, je pense que la solution est celle et l'initiative ou la démarche de la CEMCO et de l'SCC. Jean Veta Tokwano, qui nous suit depuis la province de la Mongala, nous félicitons les efforts de l'SCC et la CEMCO. Vraiment, la voie de la négociation est bonne. Vous êtes très très nombreux. On ne peut pas lire toutes vos réactions, chers auditeurs de Radio Capi. Anselme Amani, depuis Bounia, la démarche de la CEMCO est salvatrice. Néanmoins, nous n'avons pas été aptes à nous approprier de cette approche. Aujourd'hui, nous en subissons les conséquences. Le président doit écouter son cœur, car la réussite est collective, mais l'échec est individuel. Christian Moleka, quel regard portez-vous sur l'ensemble de ces initiatives et quelles recommandations pourriez-vous formuler pour optimiser les chances de succès?
Ben, la recommandation, c'est qu'il faudra un minimum de dépassement, pour les différentes parties prenantes. Ce qui est en jeu aujourd'hui est une raison supérieure qui dépasse les intérêts de chaque famille politique et que la perspective des élections à venir ne doit pas oblitérer le fait que nous avons une nation à sauver et que la sauvegarde de la patrie doit être au-dessus des intérêts partisans.
Merci Christian Moleka, dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Guy Maté, Bertin Kassiama, Donato Falani, Clément Chimanga, Hervé Vauquin, Polydor Basunga, Martin Seboujangoui a supervisé ce programme à la présentation. Kelly, écoutez, vous allez m'excuser pour la voix, je suis un peu grippée. Restez branchés sur Radio Capi.